ToraBox.com. Pour la diffusion du judaïsme aux francophones, vous retransmet un enseignement de Madame Vanessa Benzaken. Bonne écoute et bon limoud.
On continue l'étude qu'on a commencée la dernière fois sur distinction entre pilotage et éducation. Et Avchana ben Chinuch Leafala, pour celles qui voudront retrouver ça en hébreu chez le Rav Jacobson. Et comme c'est très fourni, alors on va étaler ça probablement sur 3 séances. On a vu la dernière fois l'agencement optimal des différentes parties de la démarche éducative. C'est-à-dire qu'on avait vu précédemment tout ce qu'on a vu ensemble, vous savez, l'encouragement, la discipline, l'affection, etc., toutes ces choses. Et dans ce cours-là, on a agencé dans le bon ordre toutes ces parties-là. On a dit piloter puis éduquer, puisque c'est d'abord Afala et ensuite Rinour. Ce qui revient à dire faire agir et faire aimer. D'accord ? Je vous le donne dans plusieurs formulations. C'est aussi Naase Venishma, c'est le même modèle. C'est le modèle aussi de Smol Doha Yemin Mekarevet. La gauche repousse, la droite rapproche. Et c'est le modèle de l'harmonie, d'une éducation où il y a de la discipline et où il y a de l'encouragement, de l'affection et de l'amour démontré. D'accord ? C'est en fait le même plan qui est formulé de différentes manières. On avait vu également Chanoch Lanar Alpidarko, éduque le jeune, c'est traduit souvent selon son chemin, effectivement c'est un pérouche, mais on avait vu un autre pérouche, c'était Altrilat Darko, Alpi veut dire au début de son chemin. Gamki askin lo yasur mimena, éduque-le au début de son chemin pour qu'il ne s'éloigne pas plus tard de ce chemin dans lequel tu l'as placé. Pense à l'avenir, c'est ça que ça veut dire. Occupe-toi de chinour, alpi darko, occupe-toi de chinour au début de son chemin, pas quand ils sont adolescents, c'est déjà un peu tard. Betrilat darko, pour que l'enfant en vienne à pérenniser ce que tu veux lui transmettre. Pense à long terme, parce que l'enfant il va pérenniser ce qu'il aura intériorisé. Et l'enfant, il va intérioriser ce qu'il aura appris à aimer, ce qu'il aura appris à vouloir. D'accord ? Je vous fais des flèches, 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 flèches. Ouais. Et pense à long terme, c'est une des... Dans un des psukim de Eshet Chayil, on retrouve cette idée, quand elle dit « Sophia alichot beita », elle regarde... Litzfot, c'est regarder au loin, oui. Sophia Alichot Beita, elle regarde de loin, regardez la suite du pasouk. Velechem Atzlut Lotochal. Comme elle regarde de loin, elle ne mange pas le pain de l'oisiveté. Comment on traduit ça? Velechem Atzlut Lotochal. Elle ne mange pas le pain de l'oisiveté. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, je vous ramène des Chetrail parce que j'avais fait un an d'eux avec Rav Jacobson des Chetrail. Donc il a fait beaucoup de perushim très intéressants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire imit sofa, si elle regarde au loin, elle va penser donc à long terme, c'est ça que ça veut dire. Et si elle regarde au loin et qu'elle regarde à long terme, lechem atzlut lotocha, elle ne va pas paresser, elle ne va pas négliger le travail qu'il faut faire maintenant. À savoir rapprocher l'enfant des valeurs qu'elle veut enseigner à cet enfant. On avait dit que ne faire que du pilotage sans complément de chinour, sans complément de travail d'intériorisation, comme j'entendais encore ce matin dans un cours du Rav, zélo chez zélo maspik, et là chez zé mazik. C'est pas juste que ça suffit pas, et là que ça endommage. On aurait pu imaginer. C'est difficile à concevoir toute cette problématique, parce que c'est comme des choses qui se contredisent et finalement elles vont ensemble. C'est un peu difficile à tenir tout dans la tête. On aurait pu imaginer que, bon, si tu n'as pas fait le chinour, il manque une pièce dans ton histoire. Mais c'est l'okacha, il y a une interaction, il y a une émulation entre ces deux données, qui fait qu'une sans l'autre, elles font des dégâts. Elles peuvent aller qu'ensemble. Donc, quand il n'y a que du pilotage, on peut appeler presque du dressage, et qu'il n'y a pas de chinour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effort, en tout cas éducatif, pour faire aimer à l'enfant toutes ces choses-là qu'on lui enseigne, alors ça prépare une explosion à plus ou moins court terme. C'est comme, rappelez-vous, le promoteur qui a creusé et qui n'a pas monté l'immeuble. D'accord ? C'est l'image qui nous permet de mieux comprendre. Ne faire que du chinour, on avait vu, si quelqu'un ne pilote pas l'enfant, il ne fait que du chinour. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire expliquer du matin au soir, sans jamais imposer quoi que ce soit à l'enfant. Vous savez qu'il y a des relations éducatives comme ça. Je vous assure, ça existe. Où le parent se sent... Il ne peut pas concevoir d'imposer quoi que ce soit à l'enfant. Où il est persuadé que s'il va imposer, alors ça va gâcher la relation. S'il va imposer, l'enfant ne va plus l'aimer, ou toutes sortes de bêtises pareilles. Alors que l'enfant, il a besoin d'un parent qui sait où il va, qui sait ce qu'il fait. Pas un roc qui n'est pas capable de s'interpeller, mais enfin c'est quelqu'un qui sait exactement, qui a une détermination et une assurance dans ce qu'il demande à l'enfant. Donc il y a des relations comme ça où ils ont été tout dans Khinour et ils ont complètement délaissé la hafala, le pilotage. Et donc c'est ça, explication du matin au soir, jamais aucune imposition à l'enfant. Tout est présenté un peu comme à la carte. Vous voyez? Comme ce langage-là. J'avais entendu une fois, c'était drôle. Si tu le sens... Tu le sens d'éventuellement ranger ta chambre? Qu'est-ce que tu le sens? Tu le sens pas, ça va pas là. Tu dois le faire. Alors si tu demandes des choses extra cadre disciplinaire, un petit service, une petite tova, alors bien sûr mets les formes. Chérie, tu pourrais me faire ça, parce qu'elle n'est pas supposée ou il n'est pas supposé le faire au jour le jour. Mais sur les choses auxquelles il est supposé faire au jour le jour, j'ai bien précisé supposé, hein, parce que je ne veux pas vous brutaliser dès le début. Hein. Alors par exemple, donc si vous lui dites, ma chérie, tu crois, regardez, imaginez, c'est très drôle, tu crois, moi ça me verrait moi-même, ouais. Tu crois éventuellement que tu pourrais faire ton lit, éventuellement, tu le sens? À la mère, on lui dirait, mais ça va pas chez toi. C'est pas comme ça qu'on parle. Tu lui dis, ma chérie, il faut faire ton lit. Bon, on peut faire un sourire aussi, hein. On n'est pas obligé d'être une porte de prison, mais ça veut dire, il faut que ça soit très clair. C'est des injonctions claires. Zedrichot, velotachanonim, comme on a vu dans le cours sur la discipline. Ce sont des demandes expresses et pas des supplications ni des requêtes. D'accord? Donc, quand on est tout dans Khinour, c'est ça aussi l'écueil. C'est qu'on fait tout à l'amiable, ce que j'ai appelé. Tout est fait à l'amiable. On peut pas faire tout à l'amiable. Un parent, il est supposé endosser son rôle de parent et donner des directives à l'enfant. Des directives sans agressivité, sans hostilité, mais avec une fermeté bien placée. Mais bien évidemment, l'un tout seul ne va pas, ça va pas fonctionner, les deux doivent être ensemble. Il faudra donc habituer les enfants à adopter certains comportements. C'est à nous de les habituer à avoir certains comportements, à travers un entraînement intensif de régularité, qui va nous aider à nous aussi à être plus réguliers, oui. Et je me disais d'ailleurs cette semaine, c'est drôle, finalement, pour être écouté, il faut soi-même savoir écouter. Parce que si toi-même, tu t'écoutes pas toi-même, tu veux qu'on t'écoute. Je me disais, tiens, voilà, je voudrais faire comme ça. Et après, je commençais à avoir le doute. Oh, ben peut-être, je le ferai pas. Mais si tu t'écoutes pas toi, ta propre voix, tu veux qu'ils t'écoutent, eux? C'est tout simple, mais je veux dire, c'est un peu évident. Qui est-ce qui est écouté? Celui qui sait écouter. Donc ça, c'est aussi bien sûr des petits exercices pour nous d'autodiscipline et tout ça. Je ne reviens pas sur ce cauchemar, j'arrête là. Mais l'idée, c'est que quand on va se relationner à l'enfant de cette façon-là dans le fonctionnement journalier, ce qui va se passer, c'est qu'on va diffuser à travers notre ton et notre assurance intérieure, pas « est-ce que tu pourrais éventuellement... » Non, il faut, tu peux faire ça, ma chérie. Tu ramasses tes affaires, mon fils. Pourquoi j'ai dit mon fils? Non, c'est pas le mien. Alors, toutes ces choses-là, vous voyez, c'est un ton, une certaine assurance. Qu'est-ce qu'on va diffuser à l'enfant? On va diffuser la sensation de « mechouyavout ». Ça, je ne vous l'ai pas dit la fois dernière, je vais le rajouter cette fois. « Mechouyavout », ça veut dire... On lui diffuse la sensation qu'il doit le faire, ou elle doit le faire. C'est pas à la carte, c'est pas une option. Maintenant, vous me dites, oui, mais si elle le fait pas, bon, alors je vous reporte pas sur le cours, sur la discipline qu'on a fait ensemble. Si elle le fait pas, c'est un accompagnement. Toi, tu donnes l'injonction, et tu n'insistes pas lourdement avec les bras croisés, alors tu le fais. C'est pas de la discipline, ça, c'est du dictat. Dictature, c'est pas comme ça, d'accord? On donne l'injonction avec fermeté et en diffusant cette sensation de mechouyavout, qu'il doit le faire, elle doit le faire, d'accord? Donc ça, c'est un premier pan très important. Et dans un deuxième temps, on va investir pour faire aimer aux enfants ces comportements, à vouloir ces comportements. Donc qu'est-ce qu'on va leur diffuser? Un deuxième pan qui s'appelle itnadvout. Itnadvout, ça veut dire... ça peut se traduire par bénévolat, hein, mais c'est pas ça. Itnadvout, c'est dans le sens que il veut le faire. Si par exemple quelqu'un, de son propre gré, il veut aller faire quelque chose, il n'est pas obligé, mais il veut le faire. On appelle ça umitnadev en hébreu. D'accord ?
Volontariat.
Ah oui, c'est pas mal. Hein. Alors c'est ça, c'est que l'idée, il n'est pas obligé. Maintenant, pourquoi c'est si important ce que c'est ces deux notions-là que je suis en train d'aborder maintenant ? Parce que la combinaison de Hafala et Chinour, c'est pas juste un modèle éducatif. C'est pas juste une approche éducative qui est une bonne combinaison des éléments, qui va donner de bons résultats. C'est vrai, c'est ça, mais c'est pas que ça. En vérité, c'est en regard avec une construction, avec un modèle, ce que je vais appeler, d'harmonie, qu'on retrouve dans énormément de volets de la création. Par exemple, lorsque on veut parler d'un shilouv, lorsqu'on veut parler d'une forme idéale de Avodat Hashem, on parle d'une forme qui s'appelle shilouv au mizug shel mechuyavut veitnadvut. Je vais expliquer un tout petit peu. C'est-à-dire que pour composer un acte maase shalem, il faut qu'il y ait les deux dimensions dans cet acte. Mechuyavut veitnadvut, ce qu'on appelle aussi dans une autre langue chesed veemet. Il y a cette notion-là dans nos textes de chesed veemet qui revient très souvent. Il y a dans les 13 midot rachamim, birlal, rav, chesed veemet, vous remarquez que c'est mis ensemble. Pourquoi c'est mis ensemble ? Parce que leur combinaison, elle donne quelque chose d'harmonieux et de parfait. Chesed veemet, c'est exactement ça. Itnadvut vemechuyavut. C'est-à-dire que dans ta avodat Hashem, il y aura des situations où il y a des actes que tu vas faire, tu n'es pas obligé de les faire alpidin. Par exemple, la tzedaka. Le Rambam, il pose la question, pourquoi la tzedaka, on appelle ça tzedaka ? On devrait appeler ça nedava ? Parce que tzedaka, c'est la chante tzedek. Tzedek, ça veut dire, c'est le din, il faut le faire, c'est obligé. Mais pourtant, alpidin, on n'est pas obligé. Si on passe à côté de quelqu'un et qu'on n'a pas donné, ben c'est bien de lui donner. Hein. Mais si on ne lui a pas donné, on n'est pas tenu, on n'est pas on n'a pas une faute à notre actif à ce niveau-là. D'accord ? Donc alpidin, on n'est pas obligé, il n'y a pas de mechouyavout. Mais il y a l'aïtnadvout, moi je veux lui donner. Maintenant, il nous expliquait le Rav, pour que l'acte il soit parfait, il faut rajouter de ta propre initiative à la itnadvut, la mechuyavut. Ça veut dire qu'il faudrait, pour bien faire, que dans un cadre où tu n'es pas obligé à alpidin, il faudrait que, quand tu donnes la tzedaka à ce moment-là, tu te remplisses d'une sensation d'obligation, de ta propre initiative. C'est-à-dire, quand je dis tu te remplis d'une... C'est toi qui le choisis, c'est toi qui le décides. Dans le sens où tu te dis, mais enfin, on ne peut pas laisser des gens comme ça... C'est normal, bien sûr qu'il faut aider. Ou une dame qui vient d'accoucher, mais bien sûr qu'on va lui envoyer un repas. Alors, écoute, des gens, par exemple, ils vous remercient. Oh, c'est très gentil, mais c'est normal. Cette sensation de mechouyavout, que tu crées toi-même une obligation, alors qu'il n'y a pas d'obligation là-bas, elle va s'harmoniser avec le terrain réel qui s'appelle itnadvout. Donc, quand tu as les deux ensemble, chesed ve'emet, mechouyavout ve'itnadvout, ça s'appelle maase shalem. Nous, on imagine que Maase Shalem, c'est le truc parfait où il n'y a aucune... Mais non, Maase Shalem, c'est ça. C'est les deux ensemble. Maintenant, je vous prends le cas inverse. Un contexte où tu es dans la Mechouyavout. Un contexte où tu as une liste de contraintes, de choses que tu es... C'est ta liste d'obligations. Alors, on va prendre pour le quotidien, voilà, c'est pas marqué que tu es obligé, mais enfin, tu considères que c'est obligé quand même de faire à manger, de dresser ta maison, enfin je sais pas moi, de toutes ces choses. À tes yeux, ça fait partie de la mechouyavut, ça fait partie du domaine de tes obligations. Le Rav dit, si tu veux que le maasé soit shalem, tu rajoutes une dimension de itnadvut. Une dimension de itnadvut, c'est-à-dire, je le veux. Je mets mon ratson avec ça, je le fais pas parce que, en librera, j'ai pas le choix. Non, je suis en train de faire à manger pour les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Ce qu'on a vu ensemble, vous vous rappelez ? Allo Pharos, la rêve, la chmecha, qui tirait à Rome, vekisito, tous ces psukim extraordinaires sur tes actions triviales de la journée. Tu rentres une dimension de itnadvut dans un contexte de mechouyavut. J'espère que je suis assez claire, je sais que c'est un thème un peu compliqué. Tu as rendu, il nous a dit, ashraich kiyant maase shalem. Tu as fait ce qu'on appelle un maase shalem. Tu as fait une combinaison idéale de avodat Hashem. Donc, est-ce que vous avez compris dans les deux sens ? Dans le sens où quand tu n'es pas obligé, toi rajoute l'obligation. Dans le sens où tu es obligé, rajoute le ratson. Qu'est-ce que c'est tout ça ? Ahava ve'ira. D'accord ? Chesed ve'emet. Afala ve'chinur. Zeoto davar. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en ayant cette relation à l'enfant, où il y aura ces éléments de afala ve'chinur, ces éléments de pilotage et éducation, tu lui rentres le bon modèle de Avodat Hashem. Je t'abarre chez moi. Ça veut dire que dès le début, tu l'as bien formaté. Dès le début, il a cet équilibre de forces antagonistes qui ont l'air de se contredire. Mais en vérité, elles vont très bien ensemble. Et donc, lui, dans sa Avodat Hashem, tu lui as posé ses premiers jalons. Il saura servir Hashem de façon équilibrée. De façon, comme il dit, mizug idéali. C'est la combinaison la meilleure. Mechouyavut veitnadut. D'accord ? Alors, d'ailleurs, Akadosh Baruch Hu, il nous donne un exemple de cette combinaison. Lui-même, il donne l'exemple. Qu'est-ce qu'on dit dans la tefila de la Amida ? On dit Mevi Goel, comment c'est déjà ? Leman Shemo Be'ava. Il va susciter un rédempteur pour les descendants des Avot. Qu'est-ce qui a marqué ? Leman Shemo Be'ahava. Vous avez Chesed Ve'emet ici aussi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Leman Shemo, au nom de son nom, ça veut dire pour son nom, ça veut dire il s'est engagé, il a une alliance avec les patriarches, donc il s'est engagé, il a une, entre guillemets, une mechouyavut, il n'y a pas d'obligation, mais ça veut dire il s'est donné à lui-même une obligation de le faire, mais attention, il s'est rajouté derrière be'ahava, avec amour. Donc ça veut dire je vais faire ce que je suis obligé de faire, mais je vais rajouter dans ça une dimension d'amour, une dimension de simcha, une dimension de volonté personnelle. Je le fais de mon plein gré, je suis obligé, mais je le fais de mon plein gré. C'est aussi l'harmonie qu'il y a entre Ol Malchut Shamayim ve le Arbot Kvot Shamayim. C'est exactement pareil. Vous avez toujours deux pôles qui se rencontrent. Ol Malchut Shamayim, c'est je reçois le joug d'en haut. C'est une obligation que j'endosse. Qu'est-ce que c'est le Arbot Kvot Shamayim, agrandir le Kvot Shamayim, c'est moi qui décide par ma volonté de glorifier Hachem, d'agrandir son royaume dans ce monde. C'est un peu profond, excusez-moi, mais je reviens tout de suite à nos affaires. Donc ici, Tout ça pour vous dire que, voilà, Afala Vechinour, ça, en réalité, ça appelle des réalités beaucoup plus profondes et ça pose les jalons profondément d'une bonne perception de la réalité, d'une bonne perception de la Avodat Hashem. C'est inimaginable toutes les implications qu'il y a à travers juste cette petite chose-là. Alors, Efouaïno. Maintenant, je vais vous raconter une petite histoire. Qui va différencier, en fait, toutes les petites choses qu'on fait toute la journée, et qu'on a l'impression qu'on est dans le chinour, et le chinour à proprement dit, selon le mouvan torani, selon le sens, la signification toranite. Et ce que je vous ai déjà, j'ai déjà expliqué, que donc, selon un mouvan torani, selon une définition de Torah, chinour veut dire inauguration de quelque chose qui est appelé à se pérenniser à l'avenir, c'est-à-dire quelque chose qui a des implications dans l'avenir, c'est pas du tout de suite. C'est pas juste des définitions, mais c'est quelque chose qui est vécu par les grands. Alors je vous donne un exemple, une anecdote qui a été rapportée au nom du Gaon Mibrisk. Et ça a été rapporté, le Rav a dit qu'il a entendu de première main quelque chose qui s'est passé chez le Gaon Mibrisk. Alors, il y avait une fois une asefa chez le Talmidei Chachamim, chez le Gaon Mibrisk. Donc une très grande table, avec toute une liste de grands Talmidei Chachamim, et en tête de la table, le Gaon Mibrisk. Arshav, ils étaient en train de discuter de choses très importantes, des décisions importantes pour le Klal Israël, des choses vraiment assez capitales. Et se trouvait chez le Gaon Mibrisk un petit qui sait marcher, mais un petit, qui est probablement, alors Rav Yaakovson disait, probablement le fils de sa belle-fille, donc son petit-fils, ouais. Et ce petit, il a vu qu'au bout de la table, il y avait une chaise vide. Alors il est monté sur la chaise, et puis il a rampé tout le long de la table vers papy. Excusez-moi, le Gaon Mibrisk. Il a jusqu'au Gaon Mibrisk. Alors le Gaon, il lui a souri, il l'a pris délicatement, et il l'a remis par terre. Maintenant, le petit, il a bien aimé cet ascenseur électrique là. Alors il a récidivé, évidemment. Il n'est pas bête. Il est reparti sur la chaise, il a grimpé, il est revenu. Le Gaon Mibrisk, torquedé, en même temps qu'il est en train de parler des choses incroyables, c'est gadlout. Il a pris le petit avec un sourire, il l'a reposé par terre. Maintenant, ça s'est reproduit 3-4 fois, peut-être plus. Au bout d'un moment, un avrer qui faisait partie, donc qui était là-bas, n'y tenant plus, il a dit, Kvod Rav, Mechila, je m'excuse Rav, est-ce qu'il ne faudrait pas un inyan shel chinuch po? Il n'y a pas un inyan d'éduquer? L'autre tzarich lechaner ta yeled aze? Il ne faut pas l'éduquer quand même, qu'on ne doit pas monter sur des tables, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est la jungle. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Regardez la réponse du gars. Le Gaon, il lui a dit, tu as déjà vu Haim Ra'ita Eipam, Bachur ben Esrim Oshloshim Zochel al Shulchanot. Est-ce que tu as déjà vu un Bachur de 20 ou 30 ans qui rampe sur les tables? On lui dit, non. Alors il lui dit, Azma Kesherim Chinuch. Alors quel est le rapport avec la notion de Chinuch au sens Torani? Quel est le rapport? Quelle est l'implication à long terme de cette chose-là? Alors il lui dit, Oula yesh baya shel savlanut, al ze tsarich la'avod al amidot. Il y a un problème de patience ici. Il dit, Aval ma yeled Hashem, en quoi l'enfant est coupable? Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer quel regard c'est sur l'éducation. C'est ce qu'on a dit en vécu. Ça veut dire que lui, il vit ça, cette définition de la Torah. Que chinour, c'est pas s'assurer qu'ils fassent des bonnes manières et qu'ils soient bien tenus. C'est très drôle en français quand ils disent qu'ils sont bien éduqués, ces enfants, bien éduqués. Tu sais pas. Des fois, c'est bien dressé, atloïdat. Vous comprenez l'idée? La langue, elle trahit, elle est pas juste. Quand tu dis qu'ils sont très bien éduqués, ils ont peut-être des bonnes manières. Mais pour nous, la notion de bonne manière n'existe pas. Il y a une notion de derech eretz. Parce que bonne manière, c'est de la surface. On a bien vu comment en Europe, ils avaient de très bonnes manières et ils ont pu se comporter. Au contraire, des bonnes manières, ouais. Vous comprenez l'idée? Donc, dans un sens juif, on parle de derech eretz. On parle d'acquérir des choses intérieures, qui soient vécues, pas des manières de surface. Donc, chinour pour nous, ce sera toujours une intériorisation réelle et qui a des implications à long terme.
Le cours est terminé. Nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site ToraBox www.torah-box.com trois enseignements de judaïsme par des rabbanim différents sur d'autres sujets variés et sous toutes les formes, audio, vidéo ou sous forme d'articles. À bientôt.